Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, on est avec notre invité, Mickaël Arzieux. Bonjour Mickaël, comment ça va ?
Bonjour, ça va très très bien.
Merci. Et donc, tu es réalisateur du film Islande Terre Sauvage, oui. Qui passe aujourd'hui au Festival du cinéma Nature et Environnement à Grenoble. Donc, à l'heure où je vous parle, on est vendredi et cette émission, elle passera que mardi. Et donc, tu es photographe professionnel et vidéaste. Donc,
tout
tu fais de la photographie de nature. Alors, tout d'abord, je voulais te demander comment est-ce que tu en es venu à faire ce type de photographie ?
La photographie de nature, elle est venue, comme son nom l'indique, naturellement. Naturellement, quand je me suis installé dans les Hautes-Alpes, parce que avant ça, je faisais de la photographie, mais qui n'avait absolument rien à voir avec cette thématique-là. Et c'est vraiment en m'installant dans les Hautes-Alpes et en découvrant les territoires de montagne, dans un premier temps les paysages, beaucoup le territoire d'un point de vue paysage. Et puis forcément, quand on arpente le paysage haut alpin, on finit par rencontrer aussi la faune sauvage. Donc au niveau de la thématique des paysages, j'ai très vite basculé sur la faune sauvage aussi. Je dis bien aussi parce que j'aime pas être dans une case. J'aime bien dire que voilà, c'est ce que je fais. Mon travail, il tourne autour vraiment de la nature en général.
Donc c'est en vivant dans ce milieu-là que ça t'a donné envie finalement.
Ah, complètement. Ouais.
Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça ?
Alors ça fait 12 ans en tant que professionnel, mais j'ai commencé à faire de la photo il y a à peu près une vingtaine d'années. Mais au départ, c'était vraiment dans le cadre d'un autre domaine. Je travaille en tant qu'infographiste, et en tant qu'infographiste, il arrivait que pour certaines réalisations, je doive prendre des photos. Mais ça n'avait rien d'artistique comme je le fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une vision un peu plus artistique quand même.
Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes et de photographes qui t'ont inspiré, donc je voulais te demander s'il y avait un peu des photographes qui soient connus ou non, qui t'ont inspiré et qui t'ont marqué.
Ah, complètement. Alors d'ailleurs de toute génération, au niveau du paysage, alors c'est marrant, mais au niveau du paysage ça va être beaucoup de photographes américains, des récents comme par exemple Marc Adamus et tout ça. Mais sinon, d'un point de vue paysage, vraiment, si on prend vraiment l'art de la photographie, principalement noir et blanc, ce qui m'a vraiment inspiré en termes de noir et blanc, c'est Ansel Adams, qui est un photographe réputé des États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur le Yosemite, tout ça. Et puis c'était un précurseur aussi dans son domaine, surtout dans le terme de développement. Donc il y a vraiment Ansel Adams et puis... Alors c'est marrant parce que je travaille beaucoup en couleur, de plus en plus en noir et blanc, mais c'est quasiment que des photographes spécialistes du noir et blanc qui m'ont inspiré, comme Sebastião Salgado, et puis d'un point de vue faune sauvage, il y a des gens comme Vincent Munier, comme Laurent Balesta qui m'ont beaucoup, beaucoup aussi influencé.
Et en parlant de faune sauvage, comment est-ce que tu en es arrivé à photographier les animaux aussi ? Ça s'est fait un peu par hasard ? Tu étais dans les paysages et tu voyais les animaux et tu t'es dit « Ah bah pourquoi pas ?» ou c'est venu d'où ?
Exactement, c'est-à-dire que quand on arpente les sentiers ou alpins, ou peu importe, mais des sentiers en pleine nature, on est amené à croiser différentes espèces, même si c'est des espèces communes, ça peut être du chevreuil, du chamois, du bouquetin. Et tout de suite, on est attiré par ça. Enfin, en tout cas, quand on est un peu sensible à la nature, on y est forcément attiré. Et donc c'est en baladant, et puis je crois que le déclic vraiment, parce qu'au départ j'ai pas vraiment eu le déclic, je l'ai eu un soir où je photographiais un coucher de soleil depuis une crête, je ne dirai pas où, je ne dirai pas quand, mais je photographiais des paysages depuis une crête, et sur le chemin du retour je suis tombé sur quatre loups qui étaient en pleine chasse, et on s'est retrouvé quasiment nez à nez à une quinzaine de mètres les uns des autres. Et quand ils sont arrivés en face de moi, alors il n'était pas question de faire des photos, tout mon matériel était dans le sac. Et puis de toute façon, j'étais équipé de grandes focales, enfin de 24 mm de focales de grand angle. Donc absolument pas ce qui était fait pour de l'animalier. Et puis c'était, puis de toute façon, j'aurais jamais eu le temps de le sortir, puisque la rencontre a été très rapide. Mais le fait d'avoir fait cette rencontre-là et d'avoir vraiment d'être plongé dans les yeux du premier loup qui est arrivé en face de moi, ça m'a fait un espèce de déclic. Et je crois que peut-être après cette rencontre-là, peut-être 4 jours après, Je suis allé faire mon investissement dans une longue focale, un téléobjectif, et je me suis dit, bon, maintenant, on va essayer de s'attarder un peu plus sur le sujet.
Oui, donc moment très magique, parce que c'est rare de voir des loups comme ça. Normalement, il faut attendre des jours, des semaines.
Mais depuis que je les cherche, je ne les trouve plus. Parce que bon, après, c'est pas ma spécialité. C'est vrai que je me concentre pas que sur ça. Mais ça m'arrive d'essayer de faire du pistage, d'essayer de les trouver, d'essayer de les observer. Je n'y arrive pas. Et là, ben là, ce soir-là, c'était pas voulu, c'était comme ça. Toutes les conditions étaient réunies. On était au-dessus d'une mer de nuages. Les nuages étaient en dessous de nous. Le vent était bon. Tout était réuni, je sais pas, c'est parfois ça se... Voilà, mais maintenant que je voudrais les voir parce que j'ai le bon objectif, ben je les vois plus.
Voilà, donc bon, une image qui reste dans la tête.
Ah, complètement.
Et donc tu parles de ces loups et enfin, t'as vu d'autres animaux aussi, forcément, vu que tu fais de la photo animalière. Est-ce qu'il y a un lien qui s'instaure un peu avec les animaux au fil et à mesure du temps? Enfin, qu'est-ce qui t'apporte ces animaux quand tu les photographies pour toi?
Honnêtement, c'est qu'avec les animaux, je me sens tellement bien. Parce que la relation, même si elle est à distance, même si elle est froide, même si au début elle est sur de la méfiance et que la confiance est longue à s'installer, on se retrouve face à des individus qui sont vrais et qui ne trichent pas. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas forcément des choses qu'on retrouve chez les humains souvent. Donc moi personnellement je trouve qu'avec la faune je m'y sens très, je suis très très bien. Il n'y a pas spécialement de relations particulières, il y a certaines hardes qu'on suit pendant des mois et des mois et qui finissent par s'habituer à notre présence et à nos odeurs, donc ils sont peut-être un petit peu plus tolérants envers nous parce qu'ils commencent à nous connaître et ils savent qu'on ne leur veut pas de mal, donc c'est peut-être, on peut appeler ça peut-être une première relation. Mais si je me sens bien avec les animaux parce qu'en fait, avec les animaux c'est que du vrai. Voilà, il y a pas de tricherie, il y a pas de
c'est simple.
Tout est simple.
OK. Et donc pour en venir un peu à ton film, tu as fait de la photographie donc en Islande pour le réaliser, Islande Terre Sauvage. Mm-hmm. Et donc, que tu sois dans les Hautes-Alpes ou en Islande, comment t'arrives, dans le cas des Hautes-Alpes, à avoir un regard neuf sur un lieu où t'as l'habitude d'être, enfin, pour innover au niveau de tes photos, j'ai envie de dire?
Mais ça, honnêtement, il n'y a aucune difficulté à ce que ce soit constamment différent, puisqu'on a la chance de vivre dans un département où les saisons sont marquées. Donc on va avoir vraiment des conditions très particulières en automne, en hiver, au printemps. Donc les couleurs changent, l'atmosphère change. En hiver, la montagne se couvre de son plus beau manteau. Il y a toujours quelque chose qui change. Et puis au-delà des saisons, il y a aussi les lumières. Les lumières ne sont jamais les mêmes. La situation n'est jamais les mêmes. Alors oui, peut-être qu'au niveau composition, si on parle purement photographie, au niveau composition, parfois les compositions vont se ressembler parce qu'il y a des spots il y a des endroits qui nous intéressent plus que d'autres d'un point de vue esthétique. Donc on va retourner composer à peu près de la même manière, mais les lumières seront différentes, les couleurs seront différentes. Et puis pour ce qui est de l'animalier, il n'y a pas une photo qui se ressemble, même si on va dans le même endroit toute l'année, il n'y aura jamais une photo qui se ressemble.
Ouais, donc tu peux toujours faire quelque chose de différent. Et pour l'Islande, pour ton film, est-ce que tu peux un peu nous raconter l'histoire de ce projet? Comment est-ce qu'il est né? Pourquoi ce pays t'attirait spécialement?
Eh bien, l'Islande, je crois que c'est un peu le pays que tout preneur d'images, qu'il soit photographe, vidéaste ou quoi que ce soit, en tout cas, tous les amoureux de la nature ne peuvent être que subjugués par ce pays-là. Et moi, quand j'ai commencé la photographie et que j'ai commencé à m'intéresser aux paysages, je voyais déjà sortir des images et des photos de ce pays qui étaient juste fabuleux. Et pour moi, je m'étais fixé comme objectif d'un jour y mettre les pieds. Et j'ai eu la chance, dans le cadre du travail que je travaillais pour une agence où j'encadrais des voyages photographiques. Et donc j'encadrais des groupes avec qui je faisais faire le tour de l'Islande et je leur apprenais à faire de la photographie là-bas. Mais au début, c'était vraiment dans le cadre professionnel, donc c'était pas forcément... Je découvrais le paysage, le territoire, et c'était juste fabuleux, mais c'était pas pour mon propre plaisir à moi. C'était dans le cadre professionnel. Et puis j'ai décidé d'y retourner, là, ce film, parce que je voulais cette fois-ci vraiment m'attarder sur toutes ces choses que je survolais dans le cadre professionnel pour m'y attarder vraiment et faire quelque chose de plus personnel. Et puis c'est une île, de toute façon, on ne peut que y tomber. Je ne connais pas une personne qui a mis les pieds là-bas et qui n'a pas eu envie d'y retourner aussitôt arrivé à l'aéroport pour repartir. C'est un pays qui nous prend, c'est un pays qui, où une semaine, deux semaines ne suffisent pas pour vraiment en découvrir toutes les pépites. Et ouais, c'est, faut bien se dire une chose, l'Islande, c'est une île qui est jeune. C'est une vingtaine de millions d'années. Donc à l'échelle de notre planète qui en compte plus de 5 milliards, c'est absolument rien. Donc c'est une île qui est jeune, qui a été colonisée par l'homme seulement à partir du 9e siècle. Donc c'est une terre qui est encore assez sauvage. Une faible population, on est sur 400 000 habitants. Donc on retrouve des territoires qui sont vraiment très sauvages. C'est une terre volcanique qui vibre sous nos pieds. Donc ouais, on ne peut que tomber amoureux de cette île.
Oui, et donc avec ce film, tu parles de toi, finalement, à travers l'Islande. Enfin, est-ce que tu peux un peu nous résumer ce film et le message que tu voulais faire passer ?
Ce film, en fait, j'ai spécifiquement choisi des lieux que les gens connaissaient, que le tourisme connaît. Je ne suis pas allé chercher des petits endroits secrets de l'Islande, il y en a. Là, j'ai sélectionné un échantillon d'endroits qui sont fabuleux à voir, mais que les gens connaissent. Et j'ai voulu les montrer sous un autre angle, avec un autre regard. Et j'ai surtout voulu montrer ma vision photographique. C'est-à-dire que ce que je montre dans ce film, c'est ma vision photographique de ces endroits-là, en noir et blanc, avec un noir et blanc très influencé par Ansel Adams, donc très contrasté, ce qui va bien avec une île comme l'Islande, puisque c'est une île qui est une île des contrastes. On a la glace, on a la neige. On a les
conditions
volcans,
météo aussi.
On a tout, voilà, on peut avoir les quatre saisons en une journée exactement. Donc voilà, il y a un petit peu tout et tous ces contrastes, je voulais les réunir dans un reportage photographique uniquement en noir et blanc. Et je voulais montrer un petit peu cette vision photographique, mais surtout aussi montrer que l'Islande, ben, c'est pas que des spots Instagram. C'est toute une histoire géologique, c'est toute une histoire humaine et il y a une faune qui est présente sur place, qui est très résiliente parce qu'elle vit dans des conditions qui ne sont pas faciles. Et je voulais montrer toutes ces petites choses-là que les influenceurs d'Instagram ont tendance un petit peu à oublier.
Et alors, pourquoi avoir choisi, parce que pour faire ça, pour montrer la faune sauvage de l'Islande, on peut se dire que tu peux aller dans les endroits très perdus. Et pourquoi être resté sur les endroits vraiment touristiques de l'Islande, c'était vraiment une volonté pour toi ?
Oui, c'était une volonté, parce que justement, sur ces endroits touristiques-là, les gens y vont parce qu'ils ont vu... Alors, je ne fais pas une généralité, hein. Quand je dis les gens, c'est voilà, y a une catégorie de personnes qui y vont principalement parce qu'ils ont vu des photos sur Instagram et qu'ils veulent la même. Ou en tout cas, ils veulent surtout montrer qu'ils y sont allés. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, ils vont dans ces endroits-là sans en connaître l'histoire, sans connaître l'endroit dans lequel ils se trouvent, ni le fait que c'est parfois des territoires qui appartiennent à certaines espèces sauvages, des espèces communes, hein. C'est même des espèces qu'on va retrouver, nous, sur nos côtes françaises. Les phoques, le phoque commun, c'est une espèce qu'on va retrouver sur la côte atlantique française, dans le nord. Mais là-bas, on la retrouve dans un biotope arctique, et c'est le cas de tout un tas d'espèces aussi migratrices, qui sont tout un tas d'oiseaux, certaines qui restent toute l'année là-bas sur place aussi, mais voilà. Et en fait, c'était l'histoire de montrer que cet endroit où tout le monde va faire la même photo qu'ils ont vue des milliers de fois sur Internet, à cet endroit-là, s'ils font un petit peu attention, ils se rendront compte que dans les rochers, il y a des petits oiseaux super intéressants qui s'appellent les bécassos violets et qui sont super intéressants à suivre. Il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas d'oiseaux migrateurs qui sont là, qui sont présents. Et puis ce territoire, ce qu'ils prennent en photo, ça a une particularité géologique, historique. Il y a quelques siècles en arrière, des Vikings étaient à cet endroit-là et ont fait certaines choses, ils se sont installés, ils ont été face à différentes difficultés. Enfin, il y a une histoire. Et je trouve que c'est intéressant de connaître un petit peu, même si je ne suis pas un spécialiste de l'Islande, je ne suis pas un historien et je ne suis pas non plus un naturaliste, je ne suis pas un scientifique. Moi, je suis juste un observateur. Et je pense que c'est intéressant de montrer aussi que dans ces endroits-là, il n'y a pas que l'esthétique et le « j'étais là ».
Donc, on peut aussi dire finalement que tu as une volonté de dénoncer un peu les dérives du tourisme de masse. Enfin...
Indirectement, oui. Ce film, je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Je ne suis personne pour dire à qui que ce soit de comment se comporter, ni comment en penser, ni quoi que ce soit. C'est juste que j'ai fait un constat là-bas et que je pense que d'un point de vue sensibilisation, la sensibilisation, elle commence par l'émerveillement. Et l'émerveillement, très souvent, il commence aussi par la connaissance. Donc, connaître un petit peu l'endroit dans lequel on est, il n'est pas juste beau esthétiquement parlant, il est aussi beau parce qu'il a une belle histoire et tout ça. Donc, voilà, c'était pas vraiment ciblé là-dessus, mais disons que ça fait partie de ce que j'espérais qu'on en tire de ce film, quoi.
Oui, donc on voit bien que tu as fait tout un travail pour montrer aussi la culture qu'il y a derrière ce pays. Et donc je pense qu'il y a toute une préparation à faire quand tu fais quand tu pars comme ça en expédition photographique. Donc combien de temps ça te met à peu près à préparer avant de partir, que ce soit sur des expéditions où tu vas faire du paysage, mais aussi concernant les animaux, il faut aussi que tu te renseignes sur les espèces précisément pour pouvoir les photographier.
Exactement. Exactement, parce que oui, effectivement, moi je suis pas un scientifique, je suis pas un naturaliste, donc ces espèces-là, je les ai découvertes. Et parfois, on a la chance aujourd'hui, alors on a un outil qui peut être aussi dangereux que super, c'est Internet. Et sur Internet, on trouve tout un tas d'informations qui sont très intéressantes. Il faut savoir faire le tri. Mais voilà, il y a eu quelques mois de recherche, je savais le circuit que je voulais faire. Et en fonction de ce circuit, eh bien, je me suis mis à faire des recherches historiques. J'ai commencé à lire quelques livres qui ont été réalisés sur l'histoire des premiers colons en Islande. Je me suis pas mal renseigné. C'est simplement de la recherche d'informations que tout le monde peut faire, qu'on retrouve sur Internet, sur des sites qui sont très fiables, qui donnent de bonnes informations. Et donc, il y a eu à peu près, il y a eu peut-être 2-3 mois de recherche d'informations sur les espèces et l'histoire géologique et humaine aussi de l'île.
Et donc, toute cette préparation, ça te fait aussi te dire « Ah, je vais peut-être pouvoir faire des photos comme ça » et tu as un petit peu des attentes peut-être en partant. Et je voulais te demander, quand tu pars comme ça, c'est quoi la proportion de photos où tu t'y attendais et c'est celle-là que tu voulais faire, et les photos où t'es peut-être déçu parce que t'as pas pu les avoir ou que t'as faites de manière inattendue aussi?
Alors il y a des photos que j'avais en tête et que j'espérais pouvoir faire, mais elles dépendent énormément des conditions météorologiques que je n'ai pas eues. Mais j'en ai eu d'autres de conditions, donc j'ai pas forcément eu l'animal dans les conditions que je le voulais, mais je les ai eues dans d'autres conditions. Honnêtement, je me fais souvent des plans dans la tête comme ça de qu'est-ce que j'aimerais avoir comme image, tout ça, mais je laisse beaucoup quand même le truc se faire sur le tas comme ça. J'aime bien qu'il y ait une part aussi de surprise et de je m'y attendais pas et puis je fais ça comme image. Je suis rentré avec eux là sur la session, donc le tournage de ce film il a duré 12 jours. Ce qui est court, donc je savais que j'avais pas beaucoup de temps pour réaliser à la fois les images vidéo du film et à la fois les photos du reportage que je voulais. Donc j'ai été très concentré sur ce que j'avais à faire et j'ai saisi les instants qui venaient et puis voilà. De toute façon, on peut faire que de belles images quand on a des beaux sujets, quoi.
Oui, en Islande, je pense que même s'il pleut et il y a le pire des temps, on peut créer une ambiance autour de ça.
Ouais, mais c'est justement le contraire. C'est presque quand il fait beau qu'on sortirait pas, quoi.
Oui, c'est vrai. Et donc à ce propos, est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote d'un moment où tu as dû faire preuve d'une patience extrême, je pense notamment avec les animaux pour les photographier?
Alors, si, y en a eu plusieurs, mais une anecdote qui a été, enfin en tout cas une approche qui a été très très longue, il a fallu faire preuve de beaucoup de patience, c'était pour les rennes. Faut savoir que sur l'île aujourd'hui, sur l'Islande, on compte à peu près un peu plus de 3000 rennes sauvages. Alors certains sont un peu plus domestiqués que d'autres, mais il y a des hardes qui sont très sauvages, et celles-ci, pour les approcher, c'est très complexe, parce qu'elles sont chassées. La chasse aux rennes existe toujours, il y a une régulation qui est faite, donc c'est un animal qui a peur de l'homme. Et le problème, c'est qu'à cette période-là où moi j'y vais au mois de mars, les rennes se trouvent dans une partie de l'île où c'est vraiment des paysages de toundra à perte de vue. Donc sans relief, c'est très plat, c'est un mélange de lichen, de graminées et de tourbe. Et donc il n'y a aucun relief, c'est pas le genre d'endroit où on peut faire une approche en se cachant derrière les rochers. Et on avait observé une harde de rennes qui était très très loin, qui était à quelques kilomètres de nous, on les voyait aux jumelles. Et donc l'approche a commencé alors qu'on était très très loin, et ça a mis beaucoup beaucoup de temps, parce que les rennes sont pas bêtes, ils nous voient arriver de très très loin. Donc là il est plus question de se rendre invisible, mais il est plutôt question de se faire accepter et tolérer. Et donc du coup ça a pris beaucoup de temps, et on a beaucoup rampé. Alors, ils nous voient. Si on rampe, c'est pas pour qu'ils nous voient pas. C'est parce que quand on rampe, on est moins grand pour eux. Quand ils nous voient comme ça sur l'horizon, on est plus petit en taille, ça leur fait moins peur, ça les stresse moins. Donc souvent, ben, quand ils lèvent la tête, qu'ils arrêtent de manger, qu'ils nous regardent, là, nous, on s'arrête, on se remet au sol. Et puis, on a beaucoup rampé. Et ramper dans la tourbe islandaise, c'est pas très agréable pendant des kilomètres au mois de mars. Eh bien, c'est pas terrible. Et on a fini complètement trempé, complètement gelé, absolument couvert de boue, de tout ce qu'on voulait. On a réussi à faire nos images. Mais voilà, ça a été compliqué parce qu'on est rentré complètement trempé, mais vraiment mais frigorifié. Et puis, on a fait tout ce road trip-là en camion aménagé. Donc, c'est pas comme si on avait le confort d'un hôtel après pour se mettre au chaud, tout ça. Donc, ça a été compliqué. C'était compliqué.
C'est sûr. J'ai
donc,
pas,
c'est
j'ai
les
pas
rênes que je
retiens,
ouais.
Ouais. Et t'as une autre anecdote qui t'a vraiment marqué de ce voyage
Ouais, les phoques. En fait, les phoques, c'est un animal commun que les Islandais connaissent bien, qui font partie du décor, en France aussi. Mais c'est un animal qui est juste fabuleux. Et il est très curieux, il est très joueur. Et on avait réussi, et ça c'est rare, à trouver un endroit un petit peu sauvage autour d'une lagune glaciaire qui est très fréquentée. Et on avait trouvé un endroit où il n'y avait personne. Et les phoques, du coup, sont venus nous voir. Pardon. Alors, en fait, ils ont commencé à venir nous voir tout doucement. Alors, ils n'ont que la tête qui sort de l'eau. Et il s'est instauré un espèce de jeu avec eux, parce qu'on est allongé sur la plage. Et à un moment, pour attirer leur curiosité, on faisait le mort. Mais on s'est dit, ça va, ils vont s'en foutre. Et en fait, on s'est allongé, on a fait le mort. Et là, les phoques, en voyant ça, sortaient encore plus de l'eau, se rapprochaient encore plus. Et de temps en temps, on se relevait. Et il s'est passé un jeu comme ça qui a duré peut-être 2 heures, avec différents individus, mais qui venaient jouer avec nous. Alors à chaque fois, on faisait semblant de s'allonger, de ne pas les regarder. Et puis d'un coup, on se relevait. Et puis là, on leur faisait un effet de surprise. Et en fait, ça les a amusés. Et ça a duré 2 heures comme ça, à faire une espèce de cache-cache. Et dès qu'on se relevait, pouf, ils coulaient. Donc ils se remettaient sous l'eau, pour plus qu'on les voie. Et puis dès qu'on se rallongeait, qu'on faisait comme si on était allongé, qu'on était mort, ben là, ils ressortaient de l'eau et ils nous regardaient. Donc il y a eu un jeu de curiosité comme ça qui s'est installé. Ça a duré quelques heures, c'était très rigolo.
Donc le phoque, pour le coup, qui n'est pas comme le renne, qui a
alors,
moins
lui, rien
peur
à voir.
De l'homme.
Ben, il est dans son élément, il sait que dans l'eau, il est à l'abri, c'est un excellent nageur. Il sait que... Alors en dehors de l'eau, il est très, très peureux. Hein. Il y a des parties de l'île où on observe les phoques sur des rochers. Et là, à ces moments-là... Quand ils sont sur les rochers, ils sont beaucoup plus farouches. Après, quand ils sont dans l'eau, ils sont dans leur élément et ils savent très bien que c'est eux qui mènent le jeu.
C'est ça, donc quand ils sont dans leur élément, c'est plus simple pour eux.
Ah ouais.
Et donc en parlant de ce film, on va tout de suite écouter la bande-annonce.
Notre planète regorge de véritables trésors. Des lieux dont la beauté et la force qui s'en dégagent vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Des forces colossales qui, durant des millions d'années, ont façonné, sculpté, dans les moindres détails, ces décors somptueux. Une œuvre si aboutie qu'elle a su accueillir la vie. Dans ce fabuleux théâtre, nous aussi avons un rôle à jouer. Un rôle dont, malheureusement, dépend la suite de l'histoire.
Toujours sur Radio Campus 90.8 et vous venez d'écouter la bande-annonce du film Islande Terre Sauvage qui a été réalisé par Michael qui est avec moi aujourd'hui. Donc tu dis dans cette bande-annonce, je vais te citer, dans ce fabuleux théâtre, nous avons aussi un rôle à jouer, un rôle dont malheureusement dépend la suite de l'histoire. Donc c'est à travers ces mots qui, je pense, n'ont pas été choisis au hasard que tu poses la question aussi un petit peu de l'éthique de ton métier, qui passe donc par le respect de l'environnement dans lequel tu es. Mmh. Et donc, quel rôle tu penses que la photographie de nature, elle joue dans la sensibilisation à la préservation de l'environnement ?
Alors ça, c'est assez sensible comme sujet, parce que D'un côté, cela peut sensibiliser parce que la sensibilisation, elle passe d'abord par l'émerveillement. Donc on s'émerveille devant de belles images, devant des animaux qui nous... Voilà, qui nous émeuvent par leur beauté, par leur... Et donc ça peut à la fois sensibiliser la photographie, mais malheureusement ça peut faire aussi l'effet inverse, surtout quand c'est un effet de mode. Et qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on a tendance à pouvoir, nous en tant que photographe, partager plus facilement notre travail photographique, donc on poste ça sur les réseaux sociaux, tout ça. Et de mettre parfois les lieux exacts, etc., sans expliquer, je pense qu'en fait ça peut fonctionner, mais ouais, tu vois ce que je veux dire, ça peut
c'est faire... à double tranchant.
C'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'à la fois on peut sensibiliser, mais à la fois aussi on peut du coup donner envie à des gens qui y sont pas forcément sensibles et qui sont pas forcément, qui y vont pas forcément avec l'éthique qu'il faudrait. Et je parle de ça, ça peut être beaucoup de photographes. Hein. Et donc du coup c'est voilà, je pense que il faut à la fois la photographie, et moi je pense que je fais pas mal de vidéos aussi pour ça, pour montrer un petit peu ce côté off. Je montre beaucoup les coulisses de mes photographies, parce que j'aime bien pouvoir montrer que ben, cette photo-là, il ne suffit pas de courir après un animal, de le déranger pour la faire. Il faut le faire dans les bonnes conditions aussi. Donc je pense que la photo, elle ne va pas toute seule. C'est un bel outil pour sensibiliser, mais pas tout seul. Il faut aussi de l'explication, de la sensibilisation par le texte, par peut-être l'image vidéo aussi. Mais voilà, c'est à double tranchant.
Ouais, et bah, en parlant de ça, ça peut aussi donner envie à des personnes de faire photographe animalier ou des choses comme ça. Et dans ce milieu, il y a des pratiques qui sont assez discutables, notamment celle du nourrissage des animaux pour les loups. Et donc, toi, comment tu concilies ta passion pour la photographie avec la nécessité de respecter aussi l'environnement et la biodiversité qu'il y a autour ?
Bah, parce que pour moi, c'est très simple, en fait. C'est très simple, quand on va photographier un animal sauvage, peu importe l'espèce, que ce soit un animal hyper rare ou un animal hyper commun, on rentre sur son territoire, on est chez lui, et pour moi c'est simple, la question ne se pose même pas. Et puis la fierté, j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière l'image. Il y a parfois des images qui esthétiquement ne sont pas très très belles, les gens n'y réagissent pas forcément, mais c'est des images qui ont une histoire que peut-être moi seul connais puisque c'est moi qui l'ai réalisée. Mais voilà, pour moi, de me dire que cette image, elle est magnifique d'un point de vue esthétique parce qu'elle a été complètement calculée, que l'animal a été nourri pour être dans la bonne lumière, dans la bonne composition, etc. Pour moi, la fierté, elle pourrait pas être là. Et ça suffit pas les likes sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qui fait la qualité de ton travail. C'est bien pour l'ego, mais voilà. Pour moi, il y a aussi la fierté de l'image réussie dans de bonnes conditions avec le respect de l'animal. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. Pour moi, nourrir un animal pour que des gens depuis une cabane puissent faire des jolies photos qu'ils pourront mettre sur leur Instagram ou se faire passer pour des grands aventuriers parce qu'ils étaient dans une cabane grand luxe face à des ours et des loups à qui on modifie le comportement naturel, pour moi, ça n'a pas de sens.
Dans ce contexte de respect de l'animal et de l'environnement, est-ce que tu as déjà eu des remises en question de ta pratique ou tu t'es dit « Ah bah peut-être là, faudrait peut-être que je fasse plus comme ça ?»
Ah mais complètement. Quand on commence, on fait des erreurs, on est maladroit, il arrive qu'on fasse des dérangements involontaires, mais des dérangements qui peuvent avoir des répercussions, parce que quand on déplace un animal qui était en train de manger tranquillement et qu'on lui fait peur et qu'on le déplace, peut-être qu'à cet endroit-là, c'était le seul endroit où il avait la nourriture nécessaire pour son métabolisme et qu'il ne la trouvait pas ailleurs, et on lui fait perdre du temps sur sa nourriture, sur ça. Donc oui, quand on commence, tout le monde fait des erreurs, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. On se rend compte que là, on a fait fuir l'animal parce qu'on s'est mal comporté, on a été trop gourmand, on a voulu se rapprocher trop près, on n'a pas fait attention au sens du vent. Il y a tout un tas de choses, mais c'est l'apprentissage. Et ça, c'est pas grave en soi. C'est de retenir la leçon et de se dire, la prochaine fois, je serai un peu plus prudent, je vais faire attention, je vais moins être gourmand, je vais peut-être investir dans un téléobjectif qui va un peu plus loin en termes de focale, et puis j'aurai pas besoin de me rapprocher autant. Et puis voilà, c'est un apprentissage, mais des erreurs, j'en ai fait plein et plein de fois. Et je continuerai parfois à en faire aussi, des fois par maladresse, on fait des choses, on se dit, j'ai un peu déconné.
Oui, c'est peut-être aussi l'envie de... Enfin, peut-être aussi un peu, sur le moment, la frénésie de...
Donc, oui, c'est ça. Il y a une adrénaline qui est énorme. Quand ça fait 4-5 heures qu'on attend un animal dans un affût et que d'un coup, il est là, Et encore, je dis 4-5 heures, ça c'est une moyenne, parce que suivant l'animal, ça peut être bien plus long que ça. Donc quand il se présente enfin, mais on est assailli par tout un tas d'émotions qui font que parfois on ne prend pas les bonnes décisions. Parce qu'on a l'adrénaline qui est à 100%, on a envie de réaliser nos images, on se dit peut-être le moment est fabuleux, et ça arrive qu'on fasse des erreurs dans ces moments-là. On est submergé par plein d'émotions, donc mais ça on apprend à le gérer avec le temps.
Ouais. On peut dire que c'est tout un travail de résilience, finalement.
Ah, complètement.
Et donc, en photographiant ces animaux, tu as certainement constaté parfois la destruction des milieux naturels. Donc, est-ce que ça a eu des conséquences aussi sur ton mode de vie ?
Ah ben, totalement. Et j'ai presque envie de dire que mon mode de vie à moi, c'est un moindre mal. C'est leur mode de vie à eux qui m'inquiète un peu plus. Parce qu'effectivement, moi, je constate... Et en peu de temps, c'est ça le problème, c'est qu'on constate des choses qui changent et qui se dégradent de manière très rapide. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que ça prenne des dizaines, voire des centaines d'années avant de se dégrader de cette
manière. Est-ce que tu as des exemples concrets de...
Mais non, mais des exemples. Par exemple, moi, je vis dans une zone de bocage. Un bocage... Alors, on est dans une zone, on va dire, où il y a de l'humain. On n'est pas dans du 100% sauvage, mais c'est une zone, un bocage, comme son nom l'indique, c'est une zone agricole qui va être séparée par de nombreuses haies. Les haies, elles sont très importantes parce que toutes les espèces d'oiseaux qui vivent dans ces haies et qui contribuent à l'équilibre du bocage, elles disparaissent petit à petit parce qu'on a promis parfois à certains propriétaires terriens qu'ils toucheraient des subventions plus importantes si leur terrain est plus grand. Et une haie, du coup, ça permet d'abattre une haie, ça permet d'agrandir le terrain, d'avoir un peu plus de subventions. Et malheureusement, par contre, une haie qui est détruite, c'est peut-être des espèces d'oiseaux qui vivaient là-dedans et qui contribuaient à l'équilibre du bocage et qui vont disparaître. Et moi, je le vois en quelques années, en 10 ans par chez moi, j'ai vu beaucoup de changements. Je vois des oiseaux que je vois quasiment plus, très peu ou vraiment occasionnellement, alors qu'il y a une dizaine d'années en arrière, ils étaient présents en masse. Mais au fur et à mesure, je vois les haies qui disparaissent. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a d'autres, des exemples.
Oui, donc on peut dire que tu vois le monde sous un autre angle grâce à ton métier, et ça te permet aussi de réaliser certaines choses. Et donc je pense que tu as vu tout plein, tu as dû photographier beaucoup d'espèces et toute expédition confondue, quel est l'animal qui t'a le plus marqué ou fasciné ?
L'animal qui m'a le plus fasciné ? Je crois que c'est un renard. Un renard roux. Je suis tombé sur un renard roux un jour, mais complètement par hasard. Il est arrivé en face de moi, on s'est surpris tous les deux. Je crois qu'il a été aussi surpris que moi. Et il s'est passé un truc super avec cet animal, c'est que de ce jour-là, j'ai cherché à le revoir, parce que je suis retourné, parce que la rencontre a été très rapide, et j'ai à peine eu le temps de faire une photo. Et je suis retourné de multiples fois pour essayer de le retrouver. Et c'est 4 ans après que je suis retombé dessus. Alors il était facile à identifier parce qu'il avait des cicatrices vraiment très marquées sur le museau qui permettaient vraiment de l'identifier avec facilité. Et je suis retombé sur ce renard 4 ans après. J'étais déjà super content qu'il soit encore en vie parce que chez nous, le renard est surtraqué. Donc pouvoir observer un renard et le revoir dans 4 ans après, c'est beau, ça fait plaisir. Et à partir de ce moment-là, je l'ai revu plein de fois à distance. Et à chaque fois que j'allais là-bas, je le voyais. Alors, à distance, parfois derrière, parfois je savais que lui me voyait, moi je ne le voyais pas. Mais ouais, ce renard, il y a eu une rencontre qui était très particulière avec lui.
Donc on voit bien le lien dont on parlait avant, qui s'instaure un petit peu avec les animaux. Et pour revenir un peu dans une ambiance islandaise, je marque une courte pause musicale avec une musique islandaise.
En felða fyrir þér hljótar minn ber Veit hvað mér gott en illa get Hættuð götunar seg Eik mína ney Thank you.
ég reik af stað en þungt skref því sprottið upp hefur bóð með mannlaust tóð sem byrgir mér sín og heftir för húsin hratt fjölga sér ég fastur Fljótt hann leikur mig grátt Ég tapa allt Og hver ég orðin einn Vild ég væri með þér Nú harminn hver La 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 la
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8, vous venez d'écouter la musique de Valdimar qui s'appelle Ifir Borgina, je ne parle pas islandais donc c'est un peu compliqué à prononcer, et on est toujours avec Mikael Arzur qui est réalisateur du film Islande Terre Sauvage, et donc cette interview elle touche bientôt à sa fin, mais avant je voulais encore te poser deux petites questions. Donc tout d'abord, où est-ce qu'on peut voir tes films et tes œuvres, tout simplement?
Alors, ben, ces films-là, les films qui sont destinés au festival, ben là, Terre Sauvage, il vient tout juste de sortir. Hein. Il est sorti de mon banc de montage au mois d'avril 2024. Donc là, c'est que la deuxième projection ce soir, ici à Grenoble, dans le cadre du festival. Et on pourra le revoir, ce film-là, alors, en festival toujours au mois de mars à Avignon. Donc ça, je fais la communication. Après, pour l'instant, je n'ai pas le jour exact. Je sais que c'était au Festival des Escales Voyageuses d'Avignon au mois de mars. Et voilà, en attendant, c'est le seul... Quand le film aura fait tous les festivals que je voulais le montrer en festival, quand le film aura tourné comme ça, il sera après disponible sur Internet en VOD. Et donc là, ce sera accessible depuis mon site internet officiel.
Et est-ce que tu as aussi des expositions photos, peut-être, bientôt, qui se profilent ?
Alors, des expos photos, il y en a de temps en temps. Très souvent, quand je fais une projection, j'organise beaucoup de projections-conférences. Et dans ces projections-conférences, j'aime qu'il y ait un petit peu de tout, qu'il y ait de la vidéo, qu'il y ait des tirages photos à observer aussi en réel. Parce qu'une photo, c'est bien sur un écran, mais c'est mieux sur un beau papier. Et puis donc, on peut voir quelques expositions comme ça de temps en temps. Pour l'instant, il n'y en a pas de programmées. Donc on peut principalement voir mon travail sur internet, et puis je suis à peu près sur tous les réseaux. Non, il y en a beaucoup maintenant des réseaux. On va dire qu'on peut me retrouver très facilement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Sur YouTube, ce qui est le plus intéressant, parce que c'est là où je montre à la fois les photographies, mais je fais beaucoup de vidéos aussi de type. Alors on n'est pas dans des films à proprement parler, bien que quand le film a tourné en festival et qu'il a été distribué en VOD pendant un an, je mets le film en libre accès aussi sur YouTube. Donc il y a quelques films qui sont en libre accès aussi sur ma chaîne YouTube. Donc après, voilà. Mais on retrouve surtout des vidéos de backstage et de choses assez intéressantes comme ça qui montrent l'envers du décor au niveau photographique.
Oui, et donc là, on parle un peu de tous tes projets passés, mais qu'en est-il des projets futurs ? Est-ce que t'en as qui trottent dans ta tête ?
Il y en a un qui est en cours, je travaille sur l'Espagne. Après l'Islande sauvage, ce sera l'Espagne sauvage. Et ça prend du temps parce que l'Espagne aussi est vraiment un pays fabuleux où il y a tout un tas de belles pépites. Je suis allé faire une première session de 15 jours de tournage. Et ça devrait se continuer. Donc là, je travaille sur l'Espagne. Après, c'est très long pour moi parce qu'en fait, il faut savoir que je travaille en post-production. Je travaille en autoproduction, pardon. Donc je travaille en autoprod. Donc je suis vraiment seul sur tout. Je fais toute la chaîne vidéographique, c'est-à-dire de la prise de vue au montage, à l'étalonnage, jusqu'à la réalisation de l'affiche. Donc ça me prend beaucoup plus de temps. Et puis c'est surtout que je le fais avec mes propres moyens. Donc j'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenaire, donc forcément les projets de ce type-là, ils prennent un peu plus de temps parce que j'ai pas les fonds forcément nécessaires pour faire ce genre de film, et ça prend un peu du temps. Mais voilà, parce que ça c'est le problème de l'autoprod, c'est que on a la liberté, ça a pas de prix. Mais par contre, du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un peu moins de moyens pour faire des films.
Eh ben, on a hâte en tout cas quand même de voir tous ces futurs projets. cette émission, elle touche à sa fin. Donc merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé.
Avec plaisir.
On remercie aujourd'hui Noé qui était à la technique.
Et merci Noé d'avoir surveillé
l'enregistreur.
Le niveau du micro.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !